franceinter.fr.
C'est un fabricant de bile, un destructeur de globules rouges, un assainisseur de toxines. Le foie, qui est donc le plus gros organe du corps humain, remplit des fonctions essentielles à notre organisme. Et avec donc son 1,5 kg, il représente 2% de la masse corporelle. Les maladies du foie sont multiples. Les premiers signes de dérèglement sont à prendre au sérieux. Et la tête au carré lui consacre un dossier en partenariat avec Que choisir. Mes invités vont répondre bien sûr à vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
La césarienne n'aurait finalement aucune incidence majeure sur la flore intestinale du bébé et c'est aujourd'hui à la une de la science.
C'est une étude importante qui va en apparence à l'encontre des dernières découvertes concernant le microbiote des nouveau-nés. On en discute avec la nutritionniste Karine Clément pour nuancer ses résultats.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouvons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui à la lutte contre un fléau sanitaire majeur, l'alcool. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et c'est donc le foie qui sera au cœur de notre dossier dans quelques minutes avec mes invités que je salue, la journaliste de Que choisir, Sandrine Letellier, et l'hépatologue Victor Delédingan. Bonjour à Bonjour. Tous les deux. Bienvenue Sandrine Letellier, Que choisir donc qui met le foie en lumière dans son numéro santé pour montrer qu'on demande beaucoup finalement à cet organe.
On lui demande beaucoup, oui, parce que on ne l'entend jamais, en fait. Mmh. Pratiquement jamais. Et du coup, il souffre en silence. Et quand il gémit, c'est souvent un peu trop tard.
Voilà, et vous avez décidé justement de lui consacrer ces pages dans votre dossier. Victor Delédingan, le foie, donc, c'est un organe multitâche, on va le découvrir, qu'il faut donc apprendre à ménager. Les messages de prévention sont absolument essentiels.
Comme en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour le foie, c'est d'autant plus important que c'est un organe qui vraiment ne fait pas de bruit et ouais. qu'on peut faire des choses, c'est-à-dire qu'on peut en prendre soin. Il ne nous le dit pas trop, mais il nous le dira plus tard. Et je crois qu'il saura nous remercier.
Et vous avez beaucoup de choses à nous raconter à ce sujet. On se retrouve donc dans un instant autour de notre super organe avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Le mode de naissance a-t-il une incidence sur la flore intestinale des nouveau-nés et donc sur sa santé tout au long de sa vie? Eh bien, ces questions font débat puisqu'en moins de 2 ans, au moins 3 études en apparence contradictoires ont été publiées sur le sujet. La dernière évoquée par Le Monde cette semaine montre qu'à 6 semaines, aucune différence majeure n'est visible entre les enfants nés par voie basse et ceux nés par césarienne. On en parle avec vous, Karine Clément. Vous êtes en ligne depuis le Danemark. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de nutrition à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste du microbiote. Karine Clément, les découvertes concernant justement le microbiote intestinal vont très vite apparemment, au point que même les chercheurs s'y perdent.
Alors oui, le microbiote n'a pas fini de nous étonner. Et donc, ces données récentes sur la césarienne viennent ajouter à la complexité, je pense.
L'étude dont nous parlons là a été publiée dans la revue Nature. Quelle était la démarche vraiment de ces chercheurs américains?
Alors, c'est un groupe américain très connu au Texas et qui travaille sur les changements du microbiote durant dans les premiers jours de vie. Donc, ce qui se passe pendant la grossesse et très tôt après la naissance. Et ce qu'ils ont fait, c'est repris la problématique de la césarienne et de la naissance par voie naturelle. Et donc, ils ont suivi 150 femmes. Donc, c'est assez impressionnant hein, sur le nombre. Mm-hmm. Exactement 157 femmes, 50 bébés nés par voie de césarienne et donc une centaine par voie naturelle. Et ils ont fait...
J'allais dire, ils se retrouvent au final avec très peu de différence entre les bébés nés par césarienne et par voie basse au niveau de leur microbiote. C'est une contradiction totale avec ce qu'on avait trouvé les années précédentes.
Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand ils ont gardé plusieurs choses. Ils ont fait des prélèvements sur plusieurs sites chez les bébés, à la fois dans le nez, dans la bouche. Ils ont prélevé les premières selles, également sur la peau. Et effectivement, ensuite, vous êtes en face de milliers de données dans lesquelles vous devez essayer de regarder des différences. ce qu'il voit, c'est que la différence entre les différents sites, c'est les bébés nés par... Tout d'abord, il y a des différences importantes entre les sites, d'une part, mais ensuite, il ne détecte pas de différence très claire entre les bébés nés par voie césarienne ou par voie naturelle. Et ça, en fait, à 6 semaines, donc relativement tôt, alors qu'il voyait des différences immédiatement à la naissance.
Est-ce que vous voulez dire que si on va plus loin que 6 semaines, ces différences pourraient apparaître, c'est ça?
Alors, ce qui est complexe, c'est que effectivement, dans les études précédentes, il y a eu des suivis un peu plus longs, notamment même des enfants de 2 ans. Et là, on observait des différences. Alors là, on est, si je puis dire, au milieu de toute cette problématique de ces données importantes, parce que lorsqu'on regarde la façon dont ils ont regardé par les séquences pages, bon, d'une part, on ne le voit pas, mais ils ne sont pas allés forcément très profondément dans l'analyse. Et donc, on va voir, je pense qu'ils vont continuer leurs analyses et aller suivre. L'autre point, évidemment, c'est qu'il y a il est possible qu'il y ait des espèces qui s'implantent différemment et qu'en suivant ces bébés, ça pourrait changer. Hein, c'est assez tôt.
Qu'est-ce que vous appelez des espèces, Karine Clément?
Alors, les espèces, ce qu'ils ont fait, c'est une analyse par grands groupes de bactéries. Et des grands groupes qui sont enrichis ou appauvris, en fait, regroupent des bactéries qui sont des espèces individuelles, qui sont très nombreuses et qui peuvent avoir des fonctions différentes.
Quel est l'enjeu derrière l'acquisition de ce microbiote pour la santé du nouveau-né et pour toute sa vie?
Alors, il y a un autre élément qu'on pourrait, avant l'enjeu, c'est qu'il y a un bouleversement aussi dans nos connaissances. C'est qu'on pensait que le bébé dans la cavité utérine était stérile. Et donc, ce que montre aussi cette étude par l'analyse des selles des bébés, c'est qu'il a aussi du microbiote de sa maman. Et donc, et ce qu'on dit, c'est que les premières selles des bébés traduisent l'environnement dans la cavité utérine. Et ça, c'est assez curieux parce qu'il y a des données maintenant qui montreraient que des germes pourrait passer de la maman au bébé in utero.
Ça veut dire qu'avant, on pensait que les bébés avaient cette flore intestinale et ce microbiote juste au moment de l'accouchement, c'est ça?
Absolument, absolument. C'est-à-dire que c'était acquis à la fois des germes plutôt cutanés lorsqu'on est par césarienne et puis plutôt de la cavité naturelle vaginale lorsqu'on est par voie naturelle.
Pour revenir sur les enjeux derrière toutes ces recherches, en termes de santé, on parle de quoi? On parle de la vie entière?
Alors, ce qui est issu des données de suivi long terme épidémiologique, c'est le fait qu'effectivement, sur le long terme, en fonction du mode de naissance, on voit des relations, par exemple sur le développement d'allergies, de maladies auto-immunes et même de maladies métaboliques, comme le diabète ou l'obésité. Et donc l'enjeu, et ce qui est beaucoup, beaucoup discuté, c'est l'implantation du microbiote au cours du temps. Et on pense qu'il y a des fenêtres très tôt dans la vie d'implantation, d'installation, si vous voulez, de ces espèces bactériennes dont on parlait, qui pourraient conditionner la santé future. Alors là, bien sûr, cette étude-là, c'est encore un bouleversement parce que je suis sûre que ça va faire beaucoup l'objet de discussions dans la littérature à venir.
Donc concernant la césarienne, on ne referme pas le livre, on l'ouvre, c'est maintenant que ça commence les recherches en fait.
Ah oui, il y a des enjeux de regarder précocement, il y a des enjeux de suivre ces enfants, de mettre en relation avec leur microbiote. Bien sûr, c'est que, enfin, comme toutes ces études sur le microbiote aujourd'hui, en particulier chez l'homme, on est vraiment au début d'un processus.
Oui, et on fait des découvertes sans arrêt, et des découvertes majeures, Karine Clément, sur la compréhension justement de cette flore intestinale.
Oui, absolument. Il y a beaucoup d'enjeux pour la santé humaine, et la principale difficulté, c'est de relier les données chez l'animal qui sont assez impressionnantes, hein, sur même la causalité de maladies. Hein, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, même neurodégénératives, mais le passage de ces données à l'homme. Et là, bon, voilà, il y a beaucoup de travail encore, bien sûr, à faire. Et ce qu'on voit dans ce travail-là illustre la complexité, c'est que il faut que les médecins travaillent avec des gens qui peuvent analyser des données. Là, on est en face de milliers de données, en fait, milliers d'informations.
Oui, je me tourne vers notre hépatologue Victor de Lédingan. Le microbiote, ça vous passionne aussi, hein ?
C'est l'avenir de la médecine, finalement. Ouais. Probablement, et les essais thérapeutiques ont déjà commencé chez l'homme, et on donne déjà du microbiote dans le traitement de certaines maladies.
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, des maladies de l'intestin, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin peuvent être traitées par le microbiote.
On donne du microbiote, voilà.
On donne du microbiote.
Ouais. Sous quelle forme, alors, comment ça se passe ?
Ce sont des gélules issues de celles de donneurs. Ouais. Donc, comme il y a des dons de sang maintenant, il y a des donneurs.
Exactement. Allez, une dernière question très rapidement, Axel.
Oui, au milieu de toutes ces recherches et de toutes ces découvertes, est-ce qu'il y a un nouveau message de santé concernant les bactéries qu'on peut quand même faire passer pour le grand public ?
Alors, il y a un message de santé immédiat, c'est ce qui se passe pendant la grossesse. C'est que si les données expérimentales sont vraies, on peut se dire que voilà, la bonne santé maternelle, l'alimentation, le contrôle du diabète, du poids est probablement important, puisque si des germes de la maman passent au bébé, mais ça reste des messages de santé généraux, sauf qu'on avance dans la compréhension de certains mécanismes. Et puis l'enjeu, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est aussi sur la recherche. Peut-être qu'on doit approfondir ces questions. Et donc, il faut... là, c'est peut-être un message un peu plus politique. On a un nouveau président. J'espère que la thématique recherche et retour à la santé humaine sera au cœur des préoccupations.
Bon, ben, on ne sait pas s'il s'intéresse beaucoup au microbiote, mais en tout cas, vous le serez probablement dans les semaines qui viennent, Karine Clément. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre éclairage autour de cette étude qui est sortie en février, Axel, il faut le préciser,
oui,
et qui a été mise en lumière par Le Monde cette semaine. Merci beaucoup et à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'espérance de vie des malades du sida qui augmente de 10 ans dans les pays du Nord depuis 1996 grâce aux trithérapies. C'est le résultat d'une étude parue aujourd'hui dans la revue médicale The Lancet. Une personne de 20 ans qui contracte le virus en Europe ou aux États-Unis vivra en moyenne 76 ans si c'est une femme, 73 si c'est un homme. C'est presque autant que la population générale dont l'espérance de vie est de 78 ans en moyenne. Une étude basée sur les données de 88 000 patients de 18 pays et qui montre l'efficacité des traitements actuels qui combinent donc les antirétroviraux et qui deviennent depuis 10 ans de moins en moins lourds avec moins d'effets secondaires. Oubliez le pipi pour traiter les piqûres de méduses. Des chercheurs de l'université d'Hawaï proposent une méthode scientifiquement testée pour diminuer la douleur et surtout les lésions dues au venin de méduses. La technique consiste dans un premier temps à appliquer du vinaigre pour nettoyer la zone meurtrie, sans appuyer pour ne pas diffuser le venin en profondeur, et puis dans un second temps à maintenir la zone au chaud, idéalement dans un bain d'eau à 45 degrés pendant 45 minutes, ce qui a pour effet d'inactiver le venin qui a été injecté. Il précise également que l'idée reçue que l'urine aurait des effets bénéfiques sur les piqûres de méduses est fausse. Il déconseille même ce remède qui pourrait, dans de rares cas, empirer les choses. Et puis pour finir, nous vous proposons en image une peau de dragon. Il ne s'agit pas d'un nouveau fossile de dinosaure récemment découvert, mais d'une structure très rare qui se forme sur la banquise de l'Antarctique quand les vents y déposent de l'eau salée gelée dans les airs. Photographié par l'explorateur Guy Williams, c'est composé d'une multitude d'écailles de glace ronde de plusieurs centimètres de côté. Cette peau de dragon très élégante est à voir en image sur la page Facebook de La Tête au Carré.